VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Coup de théâtre en République centrafricaine, alors que la population perdait patience dans l'attente d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre Simplice Sarandji a finalement annoncé aujourd'hui la composition du nouveau cabinet. 23 ministres, dont 4 femmes et 3 anciens candidats à la présidentielle du 30 décembre dernier. Des détails avec Freeman Sipila.
La configuration du nouveau gouvernement centrafricain confirme la rupture annoncée par le nouvel exécutif. 23 membres, pas de ministre d'État ni de ministre délégué. 3 candidats à la présidentielle du 30 décembre dernier ont fait leur entrée. Joseph Yakété occupe le ministère de la Défense nationale. Armel Douban prend les commandes des affaires étrangères. Et Jean-Serge Bokassa prend la tête du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire. 4 femmes dans l'équipe. Arlette Sombo Dibélé à l'environnement. Fernand Diengbo à la santé publique. Gisèle Panin au tourisme et à la francophonie. Enfin, Virginie Mbaïkwa aux affaires sociales et à la réconciliation. Plusieurs nouveaux visages, mais visiblement des technocrates peu connus de la scène politique centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad voisin, le déploiement du vote à la présidentielle du dimanche 10 avril continue. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais certains électeurs n'ont pas pu voter pour cause d'insuffisance de bulletins de vote. Le point avec notre envoyé spécial N'Djamena Bagassi-Koura.
Hier dimanche, la mobilisation était bien au rendez-vous. De longues files d'attente étaient visibles une bonne partie de la journée devant la plupart des bureaux de vote. Il y a 13 candidats en liste, dont le président sortant Idriss Déby Itno. Ce dernier a voté vers 8 heures dans un bureau au centre de la capitale.
Je souhaite de tout cœur que les Tchadiens sortent nombreux. Nombreux. Et faire leur choix. Leur choix. Il n'y a ni pression. Et tout doit se passer dans la transparence la plus totale.
Son principal opposant, Salé Kebzago, a voté lui vers 10 heures devant son domicile dans le quartier Paris-Congo, dans le 6e arrondissement.
J'ai entièrement confiance dans le peuple, dans sa résolution de changement. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voyez des colonnes entières d'hommes et de femmes devant les bureaux de vote, c'est justement la preuve de cet engagement, de cet engouement, de cette volonté inébranlable de changement. C'est tout cela, je pense, qui motive les Tchadiens. C'est cela qui nous renforce dans notre conviction que notre pays va enfin se libérer du joug de la terreur.
Dans le bureau de vote 1, carré 24 de N'Djamena, on a dû refuser les nomades et les déplacés par défaut de bulletins supplémentaires. Daouda Kigangari est le rapporteur du bureau.
Donc chaque fois ici, les nomades viennent, les déplacés viennent se lamenter, tout ça. Là. On a appelé la CENI, bon, puisqu'ils vont passer nous voir, jusqu'à là, on n'a pas vu.
À Boutal Bagara, un quartier à la périphérie est de N'Djamena, les choses ont mal tourné.
Depuis 9h, on n'arrive même pas à trouver les bulletins pour voter. Depuis 9h, il n'y a même pas de bulletins.
Au lieu de recevoir des bulletins de vote, c'est plutôt un déploiement important des forces armées auquel les électeurs de Boutal Bagara ont eu droit. Dona Bankali Tchakoto est l'un de ceux qui n'ont pu voter.
Comme ils ont déjà commencé à nous menacer avec les gaz lacrymogènes et avec les armes, vous entendez les tirs maintenant là, et on ne va jamais céder. Tant qu'ils veulent ou non, on décide ensemble de mourir. Et ils n'ont qu'à nous tuer comme ils ont l'habitude de le faire. Moi, je me sacrifie.
Bagassi Koura, N'Djamena pour VOA Africa.
Les réseaux Internet sont coupés à N'Djamena depuis hier. Les SMS ne passent pas non plus sur le réseau local. La capitale est sous forte présence militaire. Selon l'AFP, ces mesures d'isolement nullement expliquées par les autorités empêchent de fait les opposants de communiquer entre eux au sujet des conditions de déroulement du vote de dimanche auquel se présentaient 13 candidats, dont le président Idriss Déby Itno qui brigue un 5e mandat. Au Soudan, les habitants du Darfour ont commencé aujourd'hui à voter dans le cadre d'un référendum sur le statut administratif de cette région troublée du pays. La consultation est toutefois boycottée par les groupes rebelles et critiquée à l'étranger. Jacques Aristide.
Les électeurs doivent décider s'ils veulent conserver l'organisation administrative actuelle du Darfour, divisée en 5 États, ou les fusionner en une seule et même région. Le président soudanais Omar el-Béchir, qui a voulu maintenir ce vote référendaire malgré les combats au Darfour, soutient la première option, laquelle est critiquée par les observateurs. Pour eux, ce statut administratif renforce encore davantage le contrôle du pouvoir sur cette région riche en pétrole, uranium et cuivre. Les États-Unis ont fait part de leurs inquiétudes, estimant qu'un référendum au Darfour ne pouvait pas être considéré comme une expression crédible de la volonté du peuple du Darfour. Quant aux insurgés qui combattent le régime de Khartoum depuis 2003, mais qui se disent des fervents partisans de l'unification du Darfour, ils boycottent le référendum qu'ils jugent inéquitable. Les électeurs ont jusqu'à mercredi soir pour se rendre dans les bureaux de vote, protégés par des policiers armés et dont les murs sont couverts d'affiches appelant à une participation massive. La commission électorale affirme n'avoir relevé aucun problème ce lundi.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, l'opposition ne veut pas que l'UFR, parti de l'ancien Premier ministre Sidya Touré, soit compté parmi ses représentants au sein de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le rapprochement de l'UFR avec le président Alpha Condé en est la cause. Les partis politiques issus de l'opposition républicaine viennent d'ailleurs de suspendre leur participation aux activités de la CENI. Plus de précisions avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
L'UFR veut garder ses représentants au sein des démembrements de la CENI, mais les autres partis de l'opposition n'entendent pas de cette oreille. Ils ont suspendu leur participation aux activités d'installation des démembrements. Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition républicaine.
Jusqu'à ce que cette question de droit soit résolue.
L'annonce du retrait de l'opposition des démembrements de la CENI fait débat dans les rues de Conakry. La Commission électorale nationale indépendante a déployé ses commissaires dans le pays pour valider les listes de démembrement des CPI et CESPI. Maître Amadou Salifou Kébé, porte-parole de l'institution, précise.
Si c'est une liste de l'opposition où il n'y a que, par exemple, le chef de file, l'UFDG, sur la liste, nous la rejetons purement et simplement, parce qu'une tendance politique ne peut pas être constituée d'un seul parti.
Selon un chronogramme proposé par la CENI, les élections locales en Guinée doivent se tenir en octobre prochain. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Élections aux Comores, le dépouillement se poursuit après un vote qui a été marqué par des incidents à Anjouan, l'une des trois îles de l'archipel. Il s'agit de départager les trois candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Michel Joseph.
Le dépouillement a débuté dès la fermeture des bureaux de vote. Quelques 300 000 Comoriens étaient appelés aux urnes dans les trois îles qui constituent l'archipel, à savoir Moéli, Anjouan et la Grande Comore. Le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Swalihi, dit Mahamadou, fait face à l'ex-poutiste Azali Assoumani, qui avait gouverné le pays de 1999 à 2006, et à Mouigni Baraka, gouverneur de Grande Comore. D'après la Constitution, la présidence tournante revient cette fois à la Grande Comore. Le colonel Assoumani et Mamadou ont enregistré de précieux soutiens, mais le gouverneur Mouigni Baraka, moins connu sur les deux autres îles, veut croire en ses chances. Sur l'île d'Anjouan, des partisans de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, qui soutient le colonel Assoumani, ont perturbé le vote et ont même cassé des urnes. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant mercredi.
Somalie, un journaliste somalien rallié aux islamistes Chebab a été exécuté aujourd'hui à Mogadiscio. Hassan Hanafi avait été condamné à mort pour avoir organisé l'assassinat de plusieurs collègues entre 2007 et 2010. Idriss Fall.
Hassan Hanafi a été arrêté en août 2014 à Nairobi et extradé en Somalie. D'après le tribunal militaire qui l'a jugé à Mogadiscio, il avait confessé et a été reconnu coupable d'avoir organisé le meurtre d'au moins 5 journalistes somaliens. Il a été passé par les armes à l'aube à l'académie de police de la capitale. Plusieurs confrères ont assisté à son exécution. Samedi, deux Chebab sont déjà passés devant le peloton d'exécution. Ils avaient été reconnus coupables d'avoir assassiné une journaliste de la télévision nationale en fin 2015. 45 journalistes ont été assassinés dans le pays depuis 2007. Les Chebab ciblent souvent des membres du gouvernement, des parlementaires et des journalistes. Aussi, ce lundi, au moins 5 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée à quelques encablures de la mairie de Mogadiscio.
Et pour terminer, John Kerry est devenu aujourd'hui le premier secrétaire d'État et plus haut responsable gouvernemental américain à visiter le mémorial d'Hiroshima. Il a plaidé devant la presse pour un monde sans armes nucléaires. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.